Je vous propose de vous installer confortablement dans un fauteuil et d'écouter la section littéraire proposée comme chaque semaine par Christelle et Sylvain, libraires à l'indépendante à Saint-Gaudens. Bonjour Christelle.
Bonjour Eric.
Bonjour Sylvain.
Bonjour Eric.
Et nous débutons avec vous Christelle.
Avec plaisir Eric. Alors cette semaine, on poursuit les nouveautés de la rentrée littéraire, des coups de cœur et des premiers romans. Et alors parmi les coups de cœur premiers romans, eh bien moi j'en ai un qui est vraiment incroyable, qui s'appelle « La bonne mère » de Mathilda Di Matteo aux éditions de l'Iconoclaste, avec, vous le voyez Eric, une couverture vraiment extrêmement colorée. Et la couverture dit déjà beaucoup du roman. Donc, comme je le disais, un gros, gros coup de cœur. D'ailleurs, un coup de cœur bien partagé par et les lectrices et lecteurs et puis par nos collègues libraires. Donc, un premier roman vraiment explosif, tendre, aux mille facettes, mais aussi tragi-comique, je trouve, autour des relations mère-fille. Mais attention, pas n'importe quelle mère et pas n'importe où. Alors, direction Marseille et la Canebière que l'on voit sur la couverture. Et donc d'emblée, vous voyez, le décor est planté et ça sent bon le sud méridional. Alors on va suivre chapitre après chapitre les relations fortes, mais parfois tumultueuses, entre une mère au franc-parler, qui assume alors très clairement son côté cagole, avec ses copines virées à la plage ou virées shopping, trucs qui brillent et talons hauts, et sa fille, Clara, qui est en gros son opposé, son contraire en tout. Clara, c'est une brillante élève, elle rêve d'ailleurs, et elle rêve surtout de sortir de son milieu et de s'éloigner un peu de ses parents. Donc, direction Paris, Sciences Po, et la rencontre avec celui qu'elle appelle le Girafon, un fils de bonne famille à la lignée politique prestigieuse. Alors, dans une première partie, à la langue vraiment travaillée et parfois truculente, au fort accent de la Canebière, l'autrice installe ses personnages principaux, alors la mère et la fille, et puis plein d'autres personnages qui vont graviter dans ce tourbillon de la Canebière. Donc, elle les installe dans leur vie, dans aussi l'éloignement de Clara, avec les ressentis de chacun et chacune. Puis, petit à petit, eh bien, le roman va basculer sur des thèmes bien moins légers autour de la condition féminine et des violences faites aux femmes. Et je trouve que voilà, l'autrice vraiment les traite de manière crescendo, les traite de manière subtile, tout en nous laissant dans une forme, encore une fois, de tourbillon, de couleurs et de talons hauts. Alors, nul doute que Mathilda Di Matteo fait ici une belle entrée en littérature entre Marseille et Paris, du choc des classes sociales dans les grandes écoles, en passant par une description extrêmement touchante des relations mère-fille et de la place des femmes. Voici un premier roman fort remarqué et vraiment très très réussi. Donc La bonne mère de Mathilda Di Matteo aux éditions de l'Iconoclaste.
Merci Christelle. Sylvain.
Alors, ben toujours pareil, on continue de décliner cette rentrée littéraire riche, vraiment qui nous enthousiasme. Et là, j'ai envie de vous parler d'un livre que j'ai lu il y a déjà quelques semaines, mais que j'aime énormément. Donc, un livre du romancier David Diop qui s'appelle « Où s'adosse le ciel » et qui est publié aux éditions Julliard. Et c'est vraiment alors un magnifique titre et c'est vraiment un magnifique roman. Pour ce grand auteur qui est David Diop. Alors, David Diop, il commence à creuser une œuvre très singulière, très originale et très forte. On l'avait découvert avec Frères d'âme, donc il y a quelques années, où il racontait l'histoire et le destin des tirailleurs sénégalais qui étaient venus se battre en Europe. pendant la Première Guerre mondiale. Et puis, on l'avait lu il y a quelques années. Moi, j'avais adoré ce livre avec La Porte du Voyage sans retour, où là, il nous racontait l'histoire d'un naturaliste au XVIIe siècle au Sénégal qui découvre la réalité de l'esclavage. Là, il revient avec un roman assez singulier. C'est un double récit qui nous plonge véritablement dans deux époques. Alors, première époque, c'est l'histoire de Bilal Sek. Bilal Sek, c'est un esclave. Et à la fin du 19e, il a quitté Saint-Louis du Sénégal, donc où il habite, pour se rendre en pèlerinage à la Mecque, en Terre Sainte. Il est musulman et il va faire donc le pèlerinage de la Mecque. Simplement, sur place, il y a une épidémie de choléra qui sévit. Et son maître va prendre peur et va abandonner Bilal, qu'il pense malade, à son sort. Et il va donc se voir contraint de retourner chez lui par ses propres moyens et au prix d'un très long voyage. Il va se sortir du choléra et il va rentrer donc chez lui à Saint-Louis du Sénégal. Mais deuxième époque, durant ce voyage, Bilal est par ailleurs conteur. Il est conteur et il est habité par les histoires que lui ont racontées ses ancêtres. Et notamment, pendant ce voyage, il va se rappeler une histoire qu'il a entendue depuis tout petit. C'est l'histoire de la fuite du prêtre d'Osiris qui s'appelait Ounifer et qui, dans l'Égypte antique, a été banni par la dynastie des Ptolémées. Alors, Ptolémée, hein, c'était les dernières dynasties de pharaons, notamment Cléopâtre, hein, célèbre. Mais ensuite, bien sûr, il y a eu une descendance. Et donc, ce prêtre Ounifer a été contraint par cette dynastie des Ptolémées de fuir vers l'ouest et donc de se diriger vers ce qu'est maintenant le Sénégal. Et donc, Bilal est sur la route qu'a emprunté ce prêtre et il va se souvenir des récits que ses ancêtres ont toujours racontés. Donc vous avez deux récits et deux époques, hein, la fin du 19e siècle et on suit Bilal, et puis l'Égypte, enfin l'Antiquité où une partie du peuple égyptien a fui donc l'Égypte des Ptolémées vers l'ouest. Moi j'ai beaucoup aimé parce que le roman il passe d'une époque à l'autre, il nous entraîne dans un récit qui moi vraiment m'a fasciné, que j'ai trouvé vibrant, qui m'a beaucoup beaucoup touché. On est très souvent entre histoire et mythe, on se pose la question est-ce que ça a vraiment existé, est-ce que c'est des légendes racontées par les ancêtres, et puis surtout c'est une caractéristique de David Diop et c'est ce que j'aime énormément chez cet auteur, il a une écriture à la fois puissante, vraiment des phrases qui vous reste, j'allais dire presque en bouche, hein, voilà, quand vous lisez David Diop, vous avez vraiment des phrases qui vous éclairent, et puis aussi beaucoup de poésie, beaucoup de choses un petit peu de non-dits, mais que voilà, qui sont très évocateurs. Donc vraiment, moi j'aime beaucoup cet auteur, j'adore ce livre, et j'ai envie de vous le dire, lisez-le, et vraiment bon voyage, et dans le temps, et dans cette Afrique de l'Égypte au Sénégal, vous allez passer un voyage absolument magnifique. Alors, je rappelle le titre, David Diop, Où s'adosse le ciel, aux éditions Julliard. Et juste une petite chose, si vous lisez le livre, vous allez être récompensé parce que vous allez enfin savoir ce qui est derrière ce titre si beau. Parce que Où s'adosse le ciel, c'est un titre un petit peu énigmatique et on l'apprend dans le roman, mais je ne vais pas en dire plus parce qu'il faut le lire, bien entendu.
Merci Sylvain. Christelle, vous allez nous présenter une bande dessinée ?
Oui, on va continuer avec la jeunesse. Ce soir, ce vendredi, c'est aussi le début des vacances. Donc, on n'oublie pas les plus jeunes lectrices et lecteurs. Et moi, je voulais vous parler, alors, effectivement, d'une BD jeunesse que j'adore. Alors, vous savez, j'avais parlé la semaine dernière de Taupe et Mulot, que j'adore. Eh bien, il y en a d'autres de ces duos qui nous parlent vraiment. Vraiment d'amitié, de bienveillance, de bonheur à être ensemble. C'est Armel et Mirko. Alors, aux éditions Delcourt, de Anne Montel, Loïc Clément, Julien Arnal. Donc, quatrième tome de cette BD jeunesse, à partir de 7-8 ans environ. Alors, c'est L'histoire, donc Armel et Mirko, c'est donc l'histoire d'une amitié qui fait des étincelles d'album en album. Alors celui-ci s'appelle Le cœur en mousse, puisque depuis le début, on suit Armel. Armel, c'est une tortue qui a une peur panique, une peur débordante, une peur paralysante du noir. Mais heureusement, elle trouve auprès de Mirko, la luciole, lumière et bienveillance. Alors cette fois, on retrouve nos amis dans la clairière aux Trois Mésanges, c'est leur nouveau QG, et chaque compère a pris ses marques au sein de la location. Alors d'ailleurs, au passage, il y a une description de la maison et de la colocation que je trouve vraiment fantastique. On aurait envie de plonger dans les dessins. Donc le décor est planté, il y a une multitude de petites guirlandes. J'adore hein, le dessin, les couleurs, c'est vraiment magnifique. Et il joue beaucoup aussi, évidemment, à la douceur de cette BD. Alors, pour Armel, c'est vraiment le grand bonheur après des années de solitude. Mais chasser le naturel, il revient au galop. Et Armel, eh bien, ses peurs finissent par revenir et la rendre de mauvaise humeur et elle a à nouveau des pensées anxiogènes. Donc ça ne va pas très bien. Et puis elle va rencontrer une grenouille. Alors, est-ce que cette grenouille lui permettra d'éclaircir ses idées noires ? Et bien évidemment, je ne vous le dirai pas. Je vous laisse découvrir donc le tome 4. Mais entre émotion, remise en question et communication avec les amis, c'est vraiment un album tout doux. Donc à découvrir, comme je disais, à partir de 7, 8, 9 ans, pour inciter les plus jeunes aussi à affronter leurs peurs et à encourager l'amitié. Voilà, donc un très très bel album BD, Armel et Mirko, avec des jolis dessins ou traits tout doux, avec nos petites guirlandes qui scintillent partout et ces couleurs si intenses. Bref, j'adore. Armel et Mirko, édition Delcourt, tome 4, Le cœur en mousse.
Merci Christelle. Sylvain.
Alors, moi je vais vous parler d'un roman graphique, enfin d'un essai graphique plutôt, et en fait qui est lié à une actualité à la librairie, puisque jeudi 23 octobre à 19h, nous avons le plaisir de recevoir Seb Caz, qui est donc l'auteur d'un essai graphique, d'un document graphique sur les chauves-souris, alors qui s'appelle « Chronique d'une vie à l'envers, la nuit, une nuit avec les chauves-souris », qu'il a coécrit avec Laurent Tillion et qui est publié donc aux éditions Actes Sud dans la collection Monde Graphique. Alors, d'abord, je serais tenté de vous poser une question. Eric, est-ce que vous connaissez bien les chauves-souris ? Est-ce que vous connaissez bien l'univers des chauves-souris ?
Pas trop.
Ben voilà. En fait, on se rend compte en lisant ce document, cette BD, hein, parce que c'est une bande dessinée, qu'on découvre énormément de choses, qu'on ne connaît pas trop cet animal. Figurez-vous qu'on apprend notamment, et c'est ce qui sera l'objet de la rencontre avec Seb Caz, figurez-vous que rien qu'en Europe, vous avez 38 espèces de chauves-souris. Hein, c'est absolument énorme. Il en liste quelques-unes avec les caractéristiques. Il y a plus de 38 espèces de chauves-souris en Europe. Alors, je ne parle pas dans le monde, il l'évoque rapidement. Dans le monde, vous avez encore plus d'espèces de chauves-souris. Et figurez-vous qu'en Asie, je crois que c'est en Indonésie ou en Inde, vous avez même une chauve-souris qui fait 1,70 m d'envergure. Autant vous dire que là, on n'est pas loin de Batman. Alors, je vous rassure simplement, on apprend très vite que cette chauve-souris est fructivore. Elle ne mange que des fruits, donc aucun danger. Bref, on apprend une multitude de choses sur ces chauves-souris, puisqu'il va au fil de ce roman graphique nous apprendre les prédateurs de cette chauve-souris. Je ne savais pas, les chats bien sûr au premier chef, mais les chouettes également, le renard est apparemment un prédateur, ou la fouine. Il va nous expliquer une quantité de choses par rapport, et c'est assez fascinant, au fonctionnement de la chauve-souris, qui est un animal nocturne, donc effectivement qu'on ne connaît pas bien parce qu'il est plutôt la nuit et qu'on peut moins l'observer que d'autres animaux. Mais par exemple, c'est passionnant, le déplacement de la chauve-souris se fait par ultrasons. C'est-à-dire que la chauve-souris ne voit pas, elle est dans le noir, mais par contre, elle émet des ultrasons qui vont lui permettre de se diriger avec énormément de précision dans le noir. On apprend des choses aussi sur son habitat, sur son utilité surtout, parce que c'est un animal qui a une mauvaise réputation due à une espèce de mythologie et de légende. Mais, et ça, je pense que ça va parler aussi à beaucoup de gens, figurez-vous qu'on apprend qu'une chauve-souris adulte peut, dans une nuit, avaler plusieurs centaines de moustiques. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout par les temps qui courent. Hein, donc voilà. Donc ça, c'est quand même déjà quelque chose qui devrait nous interpeller sur l'utilité et de connaître cet animal. Et puis il revient aussi, et c'est passionnant, sur les différents grands scientifiques qui se sont penchés. Alors assez tardivement, mais des gens comme Buffon, par exemple, ont commencé à étudier. Et puis ensuite tout un tas de scientifiques allemands et autrichiens qui ont été les observer en forêt la nuit. Pour voir, donc au 19e siècle, pour essayer de mieux comprendre. Bref, vous l'avez compris, c'est vraiment un petit roman graphique passionnant, où on apprend énormément de choses. Moi, j'ai appris énormément de choses, c'est passionnant, et c'est ce qui nous a vraiment donné l'envie de inviter donc son auteur, un de ses auteurs, Seb Cazès, qui est passionné par cet animal et qui viendra donc nous en parler, je le répète, le jeudi 23 octobre, à 19h. Alors, c'est pendant les vacances scolaires, donc vraiment, j'ai envie de vous dire, vraiment, venez en famille, hein, des jeunes enfants peuvent venir, au contraire, ça s'adresse aussi à des enfants, parce qu'ils vont découvrir un animal assez fascinant et assez méconnu. Voilà, donc je vous rappelle le titre de cette BD, Chronique d'une vie à l'envers, une nuit avec les chauves-souris, de Seb Cazès et Laurent Tillon, aux éditions Actes Sud. Et la conférence donc à la librairie jeudi 23 octobre à 19h.
Merci Sylvain, on va en profiter pour rappeler vos choix, hein, votre premier choix.
Voilà, Où s'adosse le ciel de David Diop, donc un roman de cette rentrée littéraire aux éditions Julliard.
Christelle.
La bonne mère aux éditions L'Iconoclaste de Mathilda Di Matteo et le tome 4 de la BD Jeunesse, Armel et Mirko aux éditions Delcourt.
Merci Christelle.
Merci Eric.
Merci Sylvain.
Merci Eric.
Je rappelle que vous êtes tous les deux libraires à la librairie L'Indépendante à Saint-Gaudens. Merci.